Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau, hein, puisque vous l'avez déjà entendu la semaine dernière, pour la suite de notre discussion, Amélie Ismaili, hein, je le rappelle, journaliste citoyenne indépendante. Cette fois, on rentre dans un sujet encore plus glissant. Les opérations d'influence étrangères, et en particulier ce qu'on appelle maintenant Storm 1516, hein, un réseau pro-russe très actif identifié par Viginum, hein, le service français anti-ingérence numérique, et qui déploie des campagnes massives avec IA, faux médias, faux comptes, deepfakes, le tout pour pourrir le débat public en France, en Europe et aux États-Unis. Mais on va aller plus loin que le simple « les Russes font de la désinformation hein. ». La vraie question qu'on va creuser ensemble, c'est à quel moment ces opérations servent aussi d'écran de fumée commode. Quand tout le monde parle de l'ingérence russe Storm 1516, est-ce que ça n'aide pas parfois à détourner le regard d'autres scandales bien plus embarrassants pour nos propres élites? L'affaire Epstein en est l'exemple type, hein, on en parlait la semaine dernière. Un réseau de chantage et de compromission à très haut niveau qui finit étrangement relégué au second plan dès qu'une nouvelle vague ingérence étrangère arrive sur le devant de la scène. Alors, manipulation cognitive venue de l'étranger, diversion organisée à l'intérieur, où s'arrête l'une, où commence l'autre? Bah écoutez, Amélie Ismaili, merci d'être revenue pour la suite de notre entretien.
Ben, merci à vous et puis bonjour au public de Radio Courtoisie. Bonjour à vous Jean-Étienne, toujours un plaisir encore une fois d'être chez vous.
Plaisir partagé. Alors Amélie, vous avez qualifié le rapport Viginum sur Storm 1516 d'enfumage 100% pur en expliquant que ce mode opératoire informationnel permet d'attribuer n'importe quoi à un acteur malveillant, hein, sans preuve concrète d'attribution. Pouvez-vous nous décortiquer les éléments les plus absurdes du rapport qui vous font douter et pourquoi pensez-vous que Viginum utilise ce type de concept flou?
Alors, justement, j'allais vous... Alors non pas vous, j'aime pas le terme débunker, j'allais contredire en fait votre présentation et qui n'est pas votre faute hein, d'ailleurs, c'est parce que je pense que voilà, vous l'avez... évidemment, quand on lit qu'est-ce que Storm 1516, vous avez, c'est un énorme réseau russe. Voilà, on nous dit que c'est un, je crois que vous avez dit que c'était un réseau russe qui utiliserait, voilà, tout. Eh bien ça c'est une fausse information, tout simplement, ce n'est pas un réseau. Ce dispositif, entre guillemets, auquel on a attaqué, on a mis un nom qui sonne comme un espèce de réseau, parce que ça fait très, voilà, quand on vous dit des noms de code comme ça, Storm 1516, voilà, ça fait tout de suite... service secret, voilà, un truc comme ça, c'est volontaire, hein, c'est volontaire. Donc, quand vous dites ça auprès du grand public, hein, si je peux me permettre, eh bien, les gens vont entendre c'est un réseau russe. C'est pas un réseau russe. Ce qu'on a appelé Storm 1516, c'est pour moi un nouveau concept qui relève de l'enfumage. Et je vous avais dit la semaine dernière, vous savez que j'ai travaillé dans la communication de crise ou que j'ai étudié, c'était ça mon métier. C'est toujours mon métier d'ailleurs de faire voilà, de l'analyse d'informations et des écosystèmes d'informations et des stratégies rhétoriques voilà, utilisées dans des logiques de communication. Ça, c'est ce qu'on appelait en le terme vulgaire. Il y a un vrai terme pour utiliser ça, c'est du bullshit. Et c'est pas juste pour parler à faire un anglicisme. C'est une vraie théorie qui a été théorisée par un philosophe américain. Je retrouve plus son nom, mais ça va me revenir. Mais qui avait dit en fait, c'est des techniques pour en fait, faire passer quelque chose de très sérieux. Quelque chose qui est complètement creux et vide.
Donc c'est le cas
de voilà, donc un donc ce que j'appelle un enfumage. Pourquoi je dis ça? Parce que Storm 1516 est en fait, ils ont appelé ça un mode opératoire informationnel. Alors quand vous dites ça, vous ne savez pas ce que c'est. Je pense à un mode opératoire informationnel. Un mode opératoire informationnel, selon Viginum, c'est en fait un ensemble de comportements, puisqu'il faut savoir que Viginum, au début de sa création, n'a pas été créé au hasard, ils ont été créés un an avant l'élection présidentielle de 2022. Et Macron, quand il a fait ça, c'était dans l'idée, certes sûr et certain, de pouvoir dire, et on va se faire une agence qui va pouvoir dire, il y a une ingérence russe. Et pourquoi il a fait ça, Macron? parce que eh bien, dans la campagne de 2017, il a été très fragilisé par les Macron Leaks, c'est-à-dire la diffusion de documents qui étaient des documents vrais. On n'a jamais eu de preuve que c'était la Russie. C'est toujours possible. Pour le coup, ça serait un peu plus logique que ça pourrait être la Russie qui s'attaque à ce moment-là, parce que là, c'est un peu, c'est une attaque qui est un peu plus, d'une plus grosse ampleur. Donc, c'est possible que ça soit la Russie. Ça, là-dessus, je n'enlève pas. Mais on l'a jamais pu le prouver. Et eh bien, Julian Assange, qui avait diffusé ces documents-là, a toujours dit que ce n'était pas le cas. Mais bon, peu importe. En tous les cas, il y a eu une grosse diffusion de documents internes de la campagne présidentielle de Macron qui ont été diffusés. Et Macron a toujours été, et ça a fragilisé Macron parce qu'il y avait des choses très graves dans ces documents. Notamment, on a appris plus tard, l'affaire McKinsey. Vous savez, toute l'affaire McKinsey venait de ces documents-là. C'est-à-dire qu'on a les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire, comme quoi il peut y avoir des fois des bons journalistes dans ce pays, qui ont découvert ça par les Macron Leaks. Et à ce moment, enfin, dans les fichiers qui ont été diffusés, avec des emails d'échange entre voilà, le directeur de McKinsey et la campagne Macron. Quand ils ont diffusé ça, eh bien, à l'époque, le directeur de campagne a diffusé des faux mails pour faire croire à une ingérence russe, justement, là-dedans. Et ça a été dit hein, par Mounir Majoubi, c'est-à-dire qu'il a dit que ça s'appelait, c'était une technique, en fait, pour pouvoir discréditer cette fuite. Et c'est comme ça qu'ils ont, ils ont essayé de discréditer un petit peu ces Macron-Leaks. Mais en tout cas, ça l'a fragilisé. Donc, quand est arrivée l'élection de 2022, Macron, il a créé ce service VGNOOM, qui est sous la qui est justement complètement sous la direction du sommet de l'État, et dont le travail consiste uniquement à aller chercher des preuves, entre guillemets, d'ingérence. Le problème, c'est que l'attribution de ces techniques d'ingérence toutes est très, très compliquée. C'est très compliqué de pouvoir eh bien, déterminer qui sont les personnes à l'origine de certaines attaques informationnelles. Parce que l'attaque informationnelle, c'est quelque chose qui n'existe. Je ne suis pas là à dire que ça n'existe pas. Et la Russie en fait, d'autres pays en font. Les États-Unis sont des champions du monde pour faire ce genre de choses depuis toujours. Tous les pays, et la France, probablement qu'elle en fait, elle en fait en Afrique, notamment. Elle est très, elle fait beaucoup ce genre de choses en Afrique. Donc, ça a toujours existé. La Russie en fait certainement. Je pense que les Macron Leaks, c'est possible pour le coup, comme quoi je ne suis pas complètement fermée. Là, je pense que c'est possible que peut-être que la Russie peut avoir un lien là-dessus. Mais dans tous les cas, c'est un service qui avait ce but, qui a ce but-là. Et il y a une autre idée derrière ça, c'est que quand on peut créer mimer un petit peu des attaques des fausses attaques, d'attribuer ça à la Russie, et bien derrière, on va automatiquement pouvoir dire, on peut discréditer des opposants, on peut discréditer tout un genre, donc on peut autoriser la censure, comme on l'a vu dans les élections de Roumanie. Donc, VGNOOM ne sert qu'à ça. VGNOOM ne s'intéresse pas aux autres influences étrangères, d'autres attaques informationnelles qui existeraient. Par exemple, on a des attaques de... Quand vous lisez des experts sérieux, vous avez des attaques de la Turquie, par exemple. On n'en parle jamais, mais il y a des vrais sujets qui concernent la Turquie. D'autres pays qui participent à ça, on n'en parle jamais. Non, VGNOOM, son but, c'est de montrer qu'il y a assez la Russie ou l'Iran ou quoi que ce soit. Et VGNOOM, comme elle ne peut pas, il y avait un rapport intéressant, il y avait un rapport vous savez, comme c'est un service d'État, vous savez, des fois, il y a des rapports là-dessus. Et le rapport disait que ces équipes ont été compliquées parce qu'en fait, ils ne peuvent pas attribuer l'origine. Des gens. Ils n'arrivent pas. Ils ne peuvent pas techniquement. C'est très compliqué, mais c'est intrinsèquement compliqué, ce genre de choses. Comme on ne peut pas attribuer ces attaques-là, ils ont créé, ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont créé un concept qui est le mode opératoire informationnel. Et comme ça, ça permet de dire, on a vu que la Russie faisait ça dans d'autres pays. C'est ça, en fait, l'idée. C'est-à-dire qu'on sait que la Russie a eu des techniques de propagande, mais en fait, elle a les mêmes techniques. C'est des attaques informationnelles, ils ont tous la même technique. C'est créer des faux, empoisonner, ce qu'on appelle empoisonner, on va empoisonner, on va créer des faux, discréditer, ça peut être des faux drapeaux, etc. Encore une fois, les États-Unis sont des champions du monde hors catégorie de tout ça. En tout cas, c'est ceux qu'on sait, on sait qu'ils le font depuis toujours. Mais donc, si vous voulez, ces techniques-là, qui sont des techniques un peu universelles, si je peux me permettre, elle va dire, on l'a vu que la Russie l'avait fait, et effectivement, il y a des faits sur lesquels la Russie a parfois eu ces techniques-là. Donc, on peut dire que c'est un mode opératoire. Vous voyez où je veux en venir, hein, j'en étais. Et donc, d'ailleurs, quand on fait un mode opératoire, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et donc, Viginum a créé cette espèce de mode opératoire. Ils ont mis tout un tas de contenus qui n'ont strictement aucun rapport l'un avec les autres, des liens où il n'y a aucun lien entre eux. Vous avez tout un tas d'archives de faux contenus, mais on ne sait pas d'où ça vient. Il y a peut-être ça peut être des fake news, comme voilà les réseaux. Vous connaissez les réseaux sociaux. Parfois, il y a des fausses informations. Les gens fabriquent des faux. C'est comme ça. Bon, des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Des trucs qui sont à l'étranger. Des gens qui tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec les autres. Et ils ont mis tout ça dans une espèce de grosses étiquettes en disant c'est un mode opératoire informationnel. Pourquoi? Parce que la Russie a eu la même technique, a eu des techniques similaires. Donc, on peut se permettre de dire ça. Et ça, c'est vous me permettez de dire un enfumage total, complètement.
Amélie, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Oui.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Amélie Ismaili, l'opération dont on parlait à Storm 1516 est présentée comme une campagne russe pour impliquer Emmanuel Macron dans Epstein. Via de faux mails. Vous avez ri jaune d'ailleurs en disant plus c'est gros, plus ça passe.
Oui, en fait, j'en parlais la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a. En fait, ils ont attribué ça, par, encore une fois, Storm 1516, il faut bien que vos auditeurs le comprennent, ce n'est pas un réseau russe. C'est une étiquette qu'on pose sur des techniques qui sont, encore une fois, universelles. Le fait de créer des faux, de diffuser des faux, d'avoir des réplications avec des bots, etc. Ce sont des techniques universelles d'attaque informationnelle. Donc, on va attribuer ça à la Russie. Ils n'ont aucune preuve de ça. Et donc, le fait, à partir du moment où vous avez un contenu qui est donc faux, qui est complètement faux, voilà, un contenu faux qui est diffusé, où vous avez des bots qui diffusent ça, bon, ben, Viginum, on peut se permettre de dire, ben, ça fait partie de Storm 1516, parce que c'est un mode opératoire, donc on peut mettre ce que vous voulez dedans. Mais il faut vous dire à quel point c'est absurde, c'est complètement absurde de dire ça. Donc, comme on sait qu'il y a eu des techniques, voilà, faut s'imaginer que c'est des liens qui sont très, très éloignés les uns des autres. Et ma théorie, j'ai commencé à en parler, je vous en parlais la semaine dernière, c'est de dire que je pense qu'il pourrait y avoir un faux drapeau. Encore une fois, ça pourrait être une hypothèse. C'est une hypothèse, et mon hypothèse, malheureusement, je n'ai pas de fait avéré, parce qu'encore une fois, ce genre d'attaque, c'est compliqué de l'éprouver. Mais en tout cas, ça ressemble à ce qui a été fait dans les Macron Leaks, c'est-à-dire que les Macron Leaks se fait de diffuser des faux pour pouvoir discréditer des éléments qui sont réels et qui peuvent déranger le pouvoir. C'est une technique qui a été faite il y a déjà en 2017. Il faut aussi savoir que l'Élysée a diffusé des fausses vidéos pendant l'affaire Benalla.
J'allais vous en parler.
L'affaire Benalla qui a dérangé un petit peu, qui a gêné le pouvoir. Ironiquement, il faut savoir que M. Benalla avait quand même des liens avec des oligarques russes. Mm-hmm. On n'en parle pas beaucoup, mais bon, voilà. Quand on nous parle de ça, c'est assez ironique. Il a eu des contrats d'affaires avec des oligarques russes. Bon, et donc il y a eu, bon, c'est quand même un peu plus, probant en termes d'attaque, si je peux me permettre, ou d'ingérence, si je pourrais me permettre, d'avoir quelqu'un qui travaille directement à l'Élysée et qui a des liens avec des oligarques russes. Excusez-moi, je pense qu'en termes d'ingérence, c'est un petit peu plus probant que une fausse vidéo qui a été débunkée en 2 minutes. Quoi. Donc, c'est un autre sujet. Donc, j'ai tendance à penser que ça sert l'Élysée. Et quelque chose qui sort là récemment, Monsieur Emmanuel Macron, encore une fois, a dit que ça ne concernait pas cette affaire ne concernait pas la France, que ça concernait les États-Unis. Alors qu'une enquête devrait être ouverte, il y a des Français impliqués dans l'affaire Epstein. Vous avez Jean-Luc Brunel, qui était un homme qui faisait du trafic sexuel, qui est décédé en prison dans des conditions un petit peu obscures, là aussi. Il y avait tout un réseau français, il y avait un appartement français, on sait qu'il y avait, il y avait de gros. Donc, il y a toutes les raisons du monde d'ouvrir une enquête en France. Je trouve ça un petit peu étonnant. Je ne pensais pas forcément que M. Macron avait un lien, en tout cas a été très impliqué dans l'affaire Epstein. Maintenant, je le pense vraiment par rapport à sa réaction. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'étouffer cette affaire. Et donc, dans le cas de cette attaque soi-disant informationnelle, eh bien, c'est une technique pour pouvoir discréditer les documents réels issus des Epstein Files, c'est-à-dire des documents qui ont été diffusés et qui sont des documents vrais où il y a des questions qui se posent entre Emmanuel Macron. Donc, ces techniques pour dire... On va construire un narratif de ingérence russe. C'est pour discréditer. C'est toujours dans une logique de discrédit. Et je pense que Viginum est absolument dans cette logique-là de discréditer des narratifs qui peuvent être dangereux, ou en tout cas gênants pour le pouvoir.
Et vous avez insisté, Amélie, sur le fait que l'affaire Epstein en France n'a toujours pas donné lieu à une vraie enquête, hein, malgré des éléments accumulés, comme vous disiez. Face à cette inertie judiciaire et médiatique, quels seraient pour vous les premiers pas concrets qu'un citoyen ou un élu pourrait exiger pour faire avancer la vérité ?
Alors, inertie médiatique, il y a quand même 2-3 journalistes qui travaillent sur l'affaire, un peu plus
c'est
par rapport
beaucoup,
à d'autres
même, hein.
sujets.
Ouais.
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2-3. Et d'ailleurs, il y avait eu cette séquence assez... que j'ai trouvé très intéressante, je ne sais pas, vous en parlez de C'est dans l'air, je sais pas, non, c'était pas C'est dans l'air justement, c'était C'est politique, l'émission
oui.
C'est politique,
oui.
Avec Tristan Mendès-France, qui était face à une journaliste, je ne sais plus son nom, j'ai perdu mes noms, j'aurais dû noter les noms, une journaliste de complément d'enquête qui a travaillé sur l'affaire Epstein.
Mm-hmm.
Et qui a dit cette phrase assez hallucinante, qui a beaucoup marqué, en disant, en vérifiant les faits, en cherchant des faits autour de la mort d'Epstein, je me suis rendu compte que les complotistes avaient raison. Donc c'était assez et celle-là gênée. Pourquoi ? Parce que comme on a empoisonné, je parle bien de poison, un poison informationnel. Pour le coup, c'est du poison informationnel, d'intoxiquer avec cette idée que, le fait d'avoir une théorie. Puisqu'encore une fois, c'est toujours, on parle de théorie, de dire est-ce que c'est possible que, on ait étouffé ces affaires, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu être, gens passés au pouvoir qui auraient pu être liés à l'affaire Epstein, ce qui est le cas. Est-ce qu'on a pu tenter d'étouffer, de cacher sa mort, ou en tout cas de cacher un assassinat, toutes ces questions-là qui sont réelles, on a quand même mis dans sa tête cette pauvre, de dire c'est complotiste, il ne faut pas que tu le penses, il ne faut pas que tu cherches, donc tu ne fais pas ton travail de journaliste. Et c'est ça qui est fou. Et cette séquence-là, elle est marquante, parce qu'en face de ça, vous avez un Tristan Mendès-France qui dit « Oui, mais attention, ça va diffuser du complotisme, etc. » Et c'est à ça que ça sert, en fait. C'est de logique, des narratifs de complotisme et tout. C'est d'empêcher qu'on discute des affaires qui seraient les plus gênantes.
Gênante.
En tout cas, des questions qui seraient gênantes. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il y a des liens assez... En tout cas, il y a quelque chose qu'on veut cacher dans cette affaire Epstein. Des liens qui pourraient être, encore une fois, pourquoi on ne parle pas de M. Olivier Gourmet, qui était un conseiller de M. Sarkozy. Il y a des vraies questions qui se posent là-dessus. Et pourquoi on n'en parle pas ? Bon, c'est complètement caché. Et donc, il y a toutes les raisons imaginables d'ouvrir une enquête. La France ne le fait pas. Je pense que c'est un vrai souci, et à mon avis, c'est contre-productif, parce que plus vous allez tenter, ça se voit qu'on étouffe une affaire. Donc, il vaut mieux faire preuve de transparence et ouvrir une enquête. Si on veut vraiment dire on va lutter contre le complotisme, montrons que nos institutions fonctionnent.
Ouvrons une enquête,
ouvrons une enquête, et là, ce n'est pas le cas. Donc oui, bien sûr que, évidemment, là derrière, ça profite, si je peux me permettre, à des gens comme moi, qu'on qualifie de complotistes. Pourquoi ? Parce qu'on dit, il y a quand même un problème avec ça.
Et face à ces opérations, qu'elles viennent de Russie, de services français ou d'ailleurs, quels réflexes et outils recommandez-vous aux auditeurs pour trier le vrai du faux sur X et ailleurs, surtout quand des institutions comme Viginum, Noom, ou les médias mainstream poussent une version unique ?
Je leur dirais de faire appel à leur esprit critique. C'est le meilleur outil du monde. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est écrit, ce qui est vu, quel que soit le média. C'est ça qui est compliqué un petit peu parfois, parce que ça demande un effort intellectuel. Mais en fait, c'est aussi une question de... Parfois, ça peut être même une question de bon sens. C'est-à-dire que quand quelque chose est un peu gros, quand vous avez un doute sur un contenu, Souvent, c'est rapide de vérifier des faits. Ce n'est pas si long que ça. C'est-à-dire que des petites recherches sur Internet, on vérifie rapidement si c'est vrai ou faux. C'est ça que je dis. Et X a créé quelque chose. Je n'ai pas toujours été d'accord avec Elon Musk sur certains sujets, mais je pense que sur ça, il a fait vraiment un truc super, qui sont les notes de la communauté. Et les notes de la communauté, vous avez même des rapports maintenant, vous commencez à y avoir des rapports d'experts qui disent, en fait, c'est le truc le plus efficace pour lutter contre les fake news. Pour de vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous mettez une étiquette, et en fait, quand c'est la communauté qui s'occupe de cette étiquette, ça donne plus confiance qu'un fact-checker, qu'un label d'État. Les gens n'ont pas confiance en un label d'État. Maintenant, ils ont encore moins confiance aux fact-checkers, puisqu'on sait que de toute façon, ces gens ne sont financés qu'avec des fonds publics, dans la plupart des cas, ou en tout cas en grande partie avec des fonds publics, ou des fonds privés, de lobbies, qui ont un intérêt politique. Mais dans tous les cas, donc les gens n'ont pas confiance en ça. Alors que la communauté, on fait confiance à la communauté. C'est naturel qu'on fasse confiance dans la communauté. Et donc, les notes de la communauté, elles permettent là, par exemple, dans le cas, c'est intéressant quand même, le cas de la fake news qui a été diffusée autour de Macron. Ça a été, entre guillemets, il y a eu une note de la communauté tout de suite pour dire que c'était un faux, immédiatement. Et donc, les gens qui ont vu ces contenus-là ont pu voir très rapidement que c'était un faux. Et c'est pour ça que ces notes, elles fonctionnent. Et donc, ça, c'est une très bonne chose. Et après, il y a ces choses-là. Il y a encore une fois le fait de vérifier l'information et puis un peu de faire ce qu'on appelle une distinction entre ce qui relèverait d'une opinion, c'est-à-dire qu'une opinion, elle est ni mauvaise, ni fausse, ni vraie. Hein. Une opinion, c'est tout simplement une opinion, entre une opinion qui est assumée, entre guillemets, et quelque chose qui va essayer de vous faire passer pour une vérité, alors qu'en fait, elle est une opinion. C'est le cas beaucoup les fact-checkers vont utiliser cette logique-là, de dire, je prends un exemple tout bête, ce qu'a dit Marine Le Pen est faux, alors qu'en fait, ils ne sont pas d'accord avec son opinion, mais ce qu'elle dit n'est pas forcément faux, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'idée, c'est de dire ça. Et donc, c'est un peu cette distinction-là. Et même au sein de ce qu'on peut appeler, nous, nos réseaux de souverainistes, de réseaux souverainistes et tout, on peut avoir des opinions, on peut être biaisé parfois. Et il faut toujours un petit peu essayer de faire cet effort intellectuel, de se confronter, d'aller lire. Moi, je recommande surtout de lire des choses très différentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'empêcher de lire les médias, entre guillemets, mainstream. Il ne faut pas s'empêcher d'écouter surtout des avis politiques différents, des opinions politiques différentes, des médias qui peuvent être opinions, mais de voir, aussi de réserver nos efforts intellectuels aussi à des contenus de qualité, c'est-à-dire des contenus qui citent un petit peu leurs sources, déjà, quand on voit qu'ils citent leurs sources, des sources qu'on peut vérifier, et puis, qui font preuve un petit peu de transparence sur la manière dont l'information est présentée ou la manière dont l'information vient. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis attention, quels que soient les contenus, les sites internet, il y a des faux, il ne faut pas être naïf, il y a des fausses informations qui circulent. Mais moi, la différence entre nos gens un petit peu de l'institution, je ne dis pas que les fausses informations peuvent circuler dans des médias mainstream comme elles peuvent circuler dans les réseaux sociaux ou sur des blogs ou autres. Et dans tous les cas, oui, c'est un petit peu notre esprit critique. Et en fait, il ne faut pas le croire, mais notre esprit critique, il fonctionne. Et encore une fois, je le dis par rapport aux notes de la communauté. Les notes de la communauté fonctionnent très bien parce qu'en fait, beaucoup de gens sont tout à fait dotés d'esprit critique pour voir « Bon, là, j'ai un petit doute sur cette information, elle ne me paraît pas crédible, je vais la vérifier. » Et c'est tout simplement de faire ça. Et c'est ça que je recommande, moi, de faire. C'est de ne pas croire, de ne pas écouter pour argent en comptant. Si vous avez un doute, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller vérifier l'information. Souvent, c'est plus rapide qu'on ne le croit.
Amélie Smaïli, ça passe très vite. Hein. Je voulais juste que vous nous rappeliez, vous avez toujours votre site
Que j'ai laissé un peu à l'abandon ces derniers temps parce que j'avais un livre à terminer qui ça fait 2 ans que je travaille sur un livre
que je n'avais toujours pas terminé
donc il y avait ça, donc si vous voulez, au lieu d'écrire des articles, j'ai plutôt essayé de finir mon livre, donc je me suis beaucoup consacrée à ça. Mais oui, là j'ai eu, en fait je travaille aussi professionnellement pour essayer de relancer un peu le site et d'en faire de faire un peu des affaires.
Si vous pouviez
de parler un petit peu de sujets médiatiques. J'ai travaillé notamment sur une affaire qui n'a rien à voir avec la politique.
Il nous reste 30 secondes.
Rien à voir. Oui, pardon. Non, mais voilà, juste pour montrer.
Vous pouvez nous rappeler le site en question.
Le site s'appelle le Rechecking Media. Et vous pouvez bien sûr me suivre sur X. C'est là aussi où je diffuse le plus de contenu, qui s'appelle AME_8 de ISM, hein, donc Amélie Smiley.
On mettra les liens sur le site. Ouais.
Voilà, où je diffuse la plupart de mes analyses.
Passionnante d'ailleurs, je me permets de le dire.
Merci beaucoup.
Amélie Smiley, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Hein. Je rappelle que vous êtes journaliste citoyenne indépendante et qu'on peut, entre autres, vous retrouver, comme vous l'avez si bien dit, sur X. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Au revoir et à mercredi prochain.